musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, je vous dis pas votre magazine d'information locale.
Les rénovations du bâti sont des gains d'énergie et allègent les factures. Une rencontre pour les professionnels a lieu le vendredi 20 octobre de 8h à 10h au casino. Pour les particuliers, la rencontre aura lieu le samedi 21 octobre au matin dans le hall du supermarché Super U sur Île-Dieu. Bonjour Jean-Louis Roucoussine.
Bonjour Roland.
Tu es membre de l'association Yeux Demain et membre également du groupe Bâtiment pour Île en Transition.
C'est exact.
Bonjour Samuel Le Goff.
Bonjour Roland.
Tu es chargé de transition énergétique et du programme Yeux 2030 à la mairie de L'Île-Dieu.
C'est ça.
Pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que Île en Transition et le rôle du groupe Bâtiment dans ses rencontres auprès des professionnels et des particuliers?
Alors, le rôle d'Île en Transition, en fait, c'est une participation qu'on attend des citoyens pour travailler sur des projets ou portés par des citoyens ou avec la municipalité, etc. Et il y a 5 groupes de citoyens qui se sont mis en place dans le cadre d'Île en Transition. Ce sont sur des sujets qui tournent autour de la transition énergétique et même plus largement. Hein. On parle même de transition écologique, où on a des réflexions sur la mobilité, sur le bâtiment, dont on va parler là tout à l'heure. Il y a un groupe qui s'attache à comment faire développer les énergies renouvelables sur l'Île-Dieu. Il y a aussi un groupe sur la sensibilisation, la pédagogie, la communication de l'ensemble de ces thématiques-là. Et un groupe qui est en stand-by en ce moment, mais qui est un petit peu, qui se retrouve dans tout un tas de participation citoyenne, qui est le groupe mode de consommation, qui s'attache sur des projets de circuits courts, qu'on retrouve pas mal dans le collectif agricole notamment, enfin, etc. Il y a tout un tas de sujets aussi autour de ça.
Beaucoup de citoyens de l'Île-Dieu sont dans ces groupes?
Alors en fait c'est variable
à chaque non mais au total
à chaque plénière on a toujours des gens un petit peu nouveaux ou différents qui viennent en tout pour l'instant de mémoire on avait peut-être touché 80 personnes avec la dernière plénière on doit être entre 80-90 par exemple.
Comment rejoindre un groupe Samuel?
Eh ben c'est vraiment très libre ça donc il y a pas de souci donc ou en passant un coup de fil ou en rencontrant des gens qui font partie de la dynamique dans la rue etc là-dessus c'est tout à fait ouvert et il y a pas de souci donc il suffit de me contacter ou de contacter la mairie pour le faire.
Quel est le rôle du groupe Bâtiment alors dans ces rencontres Jean-Louis?
C'était pas strictement défini au début sous le nom Bâtiment. Et au fond, les premières réunions ont plutôt réussi à se consacrer à définir quelle pourrait être notre mission principale.
Et quelle est la mission principale?
Alors la mission principale qu'on a pratiquement choisie nous-mêmes, c'est de la rénovation énergétique des bâtiments d'habitat, donc anciens et habités l'hiver sur l'île, qui normalement, parce qu'ils avaient été construits il y a longtemps, sont ce qu'on appelle des passoires thermiques et où c'est pas forcément non plus des gens qui ont des très gros budgets et qui peuvent se permettre des factures d'électricité élevées. Donc on pensait que se consacrer à cette cible-là, c'était vraiment obtenir plusieurs résultats en même temps. Un, contribuer à l'effort national général des économies d'énergie. Deux, aider les gens qui sont si pas dans la précarité énergétique mais pas loin et qui vont devoir faire face à l'augmentation de leur note d'électricité surtout à cause du chauffage les aider à trouver des solutions en fait c'est d'essayer de dépenser un peu plus maintenant pour économiser beaucoup plus plus tard
après
c'est la logique et en même temps effectivement, ça développe un nouveau marché qu'on peut évaluer. On pense qu'il y a peut-être 1500, 2000 maisons, qu'un budget peut être en 20, 30 000. Une multiplication, ça donne un budget de 30 à 50 millions à dépenser sur l'île vis-à-vis des artisans du bâtiment. Donc, ça crée des jobs, ça améliore le confort et le budget des particuliers et ça contribue à un effort citoyen national.
Ces logements énergivores, ils sont nombreux?
On a évalué en se servant d'un critère après 74 ou après 74. Parce que certains critères dans la construction neuve ont été appliqués à ce moment-là. On peut évaluer que c'est autour de 1500
logements qu'il faudrait rénover.
Qu'il faudrait rénover et qui sont habités l'hiver. Mm-hmm. Parce que c'est très moins grave.
C'est important.
Oui.
C'est énorme tout de même.
Oui, alors c'est vrai que c'est une cartographie qui est difficile à faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas forcément de données très très fines là-dessus. Hein. Il y a le groupe bâtiment qui s'est attelé un petit peu à la tâche en récupérant différentes données avec l'urbanisme, etc., d'essayer d'avoir une première cartographie là-dessus. Mais en fait, on a vraiment besoin d'avoir des données assez fines pour voir quel serait le potentiel sur l'île-Dieu, pour pouvoir dimensionner au mieux un dispositif d'accompagnement des particuliers. On va en développer après, c'est ce qui s'appelle la plateforme de rénovation énergétique de l'habitat.
On va en parler.
Couplé à une OPA, une opération programmée de l'amélioration de l'habitat. Donc ça ne concerne pas que l'énergie, mais tout un tas d'autres sujets, notamment des critères plus sociaux, etc., qui peuvent être concernés. Et ça, on a besoin de savoir combien d'habitats potentiels peuvent être concernés sur l'île-Dieu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais eu de travail de ce type-là mené sur l'île-Dieu. Donc en fait, on part presque de zéro. Donc on a un potentiel, a priori, qui serait assez important.
1500 logements à rénover sur 4700 habitants à l'année, en gros, c'est énorme. Non ?
Ben oui, ça représente évidemment un travail qui ne va pas se faire d'une traite. Mmh. Alors en fait, dans les 5000 maisons à peu près qu'il y a sur l'île-Dieu, il y en a la moitié qui sont des maisons à l'année et l'autre moitié qui sont des résidences secondaires. Donc on a c'est plutôt quelque chose qui s'adresse pour les habitants à l'année, on est
à
d'accord
l'année, oui.
Donc c'est 2500 maisons. Mmh. Sur ces 2500 maisons-là, on aurait à peu près, mais ça c'est une estimation pour l'instant qui est faite au doigt mouillé, hein, à peu près la moitié qui aurait
vraiment besoin d'un rafraîchissement.
Vraiment besoin d'un rafraîchissement, de travaux de rénovation, etc. Jean-Louis, tu veux
Jean-Louis. Oui, la grande inconnue, c'est pas tellement le nombre de maisons près 74, c'est le fait que certains propriétaires ont déjà fait des travaux. Et ça, on est complètement dans le noir. Mmh. Et c'est une des raisons fondamentales, c'est vraiment important qu'on arrive à faire remplir les questionnaires qu'on aura disponibles samedi au Super U et au marché, pour dire, bon, y a des maisons qui ont peut-être été refaits complètement, d'autres simplement les orifices des fenêtres, et pour évaluer la taille, même pour les artisans, si on veut les intéresser à ce marché-là, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment un potentiel, que c'est pas deux, trois fenêtres à réparer dans un coin. Et donc pour
il y a vraiment du gros œuvre à faire.
Oui, le questionnaire qui a été mis au point par Élise, par Pierre Gersic, est vraiment fondamental. Il faut qu'on en ait un nombre suffisamment représentatif pour pouvoir en tirer les conclusions.
Le vendredi 20 octobre de 8h à 10h au casino, c'est une rencontre entre professionnels. C'est plutôt un état des lieux du bâtiment il est ou c'est une présentation des projets en cours et à venir?
En fait, c'est...
Les deux, mon capitaine?
C'est un peu ça. En fait, c'est la suite de ce qu'on avait commencé à faire l'année dernière. On avait fait avec le groupe bâtiment, avec l'UCA, avec Dieu Demain, ce qui s'appelle le forum du bâtiment. C'était la première version qu'on avait fait l'année dernière.
Sous le chapiteau.
C'était au chapiteau. Mmh. Et du coup, on essayait d'apporter cette rencontre-là avec les artisans qui ont des compétences dans la rénovation et les particuliers qui ont des projets potentiels. Il y avait des banquiers qui étaient là, il y avait Solia, etc. Donc c'était une première étape très intéressante. Pour cette année, on voulait renouveler un petit peu l'opération, mais c'est toujours pareil. On court après la disponibilité des artisans. On sait comment c'est compliqué de les avoir. On court après.
Tant mieux, c'est qu'ils ont du boulot.
Oui, tant mieux, c'est qu'ils ont du boulot. Mais c'est vrai que c'est difficile de les capter pour être présent, ne serait-ce qu'une journée, pour expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire
dans le logement.
Voilà, sachant qu'ils ont des projets à côté, ils ont des chantiers qui courent, donc à leur place, effectivement, moi je comprends. Donc l'idée, c'était de réduire un petit peu ce format-là au maximum et de partir plutôt sur des rencontres du bâtiment avec, sur une première phase, vraiment une réunion d'informations et des échanges d'informations pour les professionnels. Mais ça reste ouvert à tout le monde. Hein. S'il y en a qui sont intéressés par ce qu'on va dire, etc., ils sont le bienvenu. Mais l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tous les professionnels du bâtiment pour, d'une part, expliquer ce que c'est que cette étude de plateforme de rénovation de l'habitat, ce que c'est qu'une OPA, et comment est-ce qu'on va associer les artisans dans le cadre de cette étude et combien ils sont importants pour la suite de l'épisode.
le vendredi 20 octobre entre 8h et 10h au casino, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça. En fait, c'est la forme d'un petit déjeuner entreprise. C'est pour ça que ce sont des horaires un peu plus adaptés pour les entreprises, parce qu'après, ils peuvent partir sur les chantiers.
Jean-Louis.
Oui, ce que je voulais ajouter concernant vendredi, c'est qu'on a les banques qui viennent, et c'est très important. Parce que une des choses qu'on a appris avec, grâce à Info Énergie, c'est que beaucoup de gens ne vont même pas jusqu'à étudier la possibilité de rénover ces paquets. On cherche pas à les pousser à le faire, mais on aimerait au moins qu'ils vérifient
si c'est possible
et faisable.
Quelles subventions ils ont le droit, etc., etc. Et
parce que les subventions.
Quel taux de crédit, j'en passais les meilleurs.
Le taux de crédit, le crédit à taux zéro, les aides financières de l'État citées. Et là, c'est d'autant plus important qu'avec le changement de majorité et un nouveau gouvernement, cette réglementation est en train de changer. Mmh. Et donc, quand ils parlent à leurs clients, il faut qu'ils sachent à peu près ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc, la présence d'Adem, Élise et de Solia à ce petit déjeuner est cruciale aussi à cause de ça.
Élise et Solia, ils font à peu près le même travail, non?
Non, alors en fait, Élise, c'est l'association sur la Vendée qui porte l'espace Info Énergie. Mmh. Donc, ils ont cette activité-là d'espace Info Énergie, mais ils ont d'autres activités à part, hein, sur lesquelles ils répondent, sur des marchés, etc. Mais leur spécialité, c'est vraiment le conseil à l'énergie dans l'habitat. Solia, c'est un opérateur de l'ANA. Donc, l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Et du coup, eux, leur objet, c'est d'aider en fait les particuliers qui ont des projets plutôt liés à de l'amélioration de l'habitat.
Par exemple, les fenêtres, le chauffage.
Par exemple, les fenêtres, mais pas forcément que l'énergie. Ça peut être des habitats insalubres où on a des problématiques liées à des salles d'eau ou d'espace suffisamment disponible, des choses comme ça. Mais ça concerne aussi l'énergie. Mais par contre, leur cible, c'est plutôt les personnes précaires qui ont peu de revenus. Et du coup, ce sont vraiment cette cible-là sur laquelle ils sont spécialisés.
Les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, quoi.
Ouais, on parle de handicap, on parle de maintien à domicile, on va parler de tous les sujets plutôt sociaux et des personnes plutôt défavorisées. Et du coup, la conjonction avec Élise, c'est vrai que ça matche assez bien, parce qu'on a d'une part l'énergie, on a les enjeux sociaux, et on a deux complémentarités sur lesquelles ça peut bien fonctionner.
Quelles questions reviennent le plus souvent dans ce groupe de bâtiments, Jean-Louis?
De mémoire, je crois que les questions sont données dans tous les sens, honnêtement, quand je cherche à résumer, parce que on a dans le groupe maçons, architectes, entreprises, etc., qui ont des priorités différentes. Par exemple, il y a tout un petit groupe à l'intérieur du groupe bâtiment qui s'est concentré sur le problème des matériaux, en disant c'est bien joli, mais de parler de rénovation énergétique, mais les gens sont ici sur l'île, on n'est pas à la pointe du progrès, et on va pousser les gens à faire des travaux, faut-il encore choisir les meilleurs matériaux possibles pour le meilleur prix? Et il n'y a pas d'étude de fait, il n'y a qu'un seul fournisseur qui, lui, il répond à la demande. Son rôle.
Il faut que ces matériaux rentrent dans le PLU, etc., etc.
etc. Bon, ça, c'est une question.
C'est une problématique.
C'est une problématique.
Grosse problématique, tout de même, non?
Très grosse problématique, et qui demande presque un effort séparé à l'intérieur du groupe, en discutant avec le fournisseur, par exemple, qui est pratiquement monopolistique ici, avec les artisans, parce que certains, comme toujours, il y a des pionniers. Il y en a même, il y a un des artisans qui a fait une maison en parpaing de Pierre Ponce et en ciment de Pierre Ponce, ce qui est fabuleux au point de vue de la science, sauf que c'est pas un budget à la portée de tout le monde. Mmh. Et donc, il faudrait qu'on réunisse ces connaissances-là pour avoir la meilleure stratégie de choix des matériaux.
Autre problématique pour les professionnels du bâtiment, c'est les labels.
Oui.
Pour que le particulier ait des subventions, il faut que le professionnel ait des labels.
Il faut
un label, dépend des corps de métier.
Effectivement, il faut travailler avec un ou des professionnels RGE, donc reconnus garants de l'environnement.
Ils sont nombreux.
Alors, ils commencent à être de plus en plus nombreux. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, RGE, c'est que c'est une vraie contrainte pour eux. Il faut faire une formation. Elle est pas évidente, parce que le temps qu'on passe en formation, c'est pas du temps sur lequel on est sur des chantiers. C'est une formation qui est payante, qui est peut-être en partie remboursé, mais voilà, il faut pouvoir débourser ça, donc il y a aussi ces questions-là. Et c'est quelque chose qui est cyclique, c'est-à-dire que, évidemment, c'est pas valable à vie, c'est-à-dire qu'il faut faire un chantier qui soit conforme par rapport aux attentes du critère RGE. Je crois que c'est de mémoire tous les 4 ans, il faut renouveler le certificat, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez lourd et qui est aussi une grosse contrainte administrative. On s'adresse à des petites entreprises du bâtiment hein, sur un lieu, qui n'ont pas forcément toutes ni le temps ni le
personnel
ni le personnel nécessaire pour pouvoir faire toutes ces formations là. Donc ça a été un débat hein, même à l'échelle nationale pour savoir est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas plutôt pour les grandes entreprises que pour les petites, etc. Mais l'enjeu était de pouvoir faire des travaux de qualité avec des matériaux de qualité, avec des professionnels de qualité pour avoir le rendu attendu. Sinon les économies d'énergie ne sont pas là. C'est-à-dire que si on met une nouvelle fenêtre, mais il y a un jour où il y a une faute de pose, bah évidemment, les économies d'énergie ne sont pas au rendez-vous. Donc toute la question, qui est encore d'actualité, hein, c'est comment justement se garantir de professionnels voilà, qui ont cette certification-là, entre guillemets, sans qu'il y ait de label ou sans passer par des formations. C'est une question qui est compliquée. Hein.
Ce groupe bâtiment, il travaille avec les professionnels. Mais travaille-t-il avec les professionnels du continent, Jean-Louis ?
C'est pas légal, le concept de préférence. Il est, comme vous savez,
c'est pour ça que je pose des questions.
Les corps sont essayés, mais...
Non, mais est-ce qu'il y a certains corps de métier qui ne sont pas disponibles sur les lieux ? Il faut bien faire appel à des gens du continent, ou vous n'êtes pas d'accord, Jean-Louis ?
Je pense que si on contacte les artisans d'abord ici, si ça ne les intéresse pas ou s'ils n'ont pas la capacité, leur carnet de commandes est plein et c'est trop un casse-tête d'être RGE parce qu'ils sont tout de suite deux et que bon, ils peuvent pas. C'est certain que la logique, si on veut réaliser quelque chose, c'est de faire appel à les grosses entreprises du bâtiment. On en a parlé, on l'a pas envisagé jusqu'à présent. Il y a un exemple qui est voisin de l'isolation. Et qui pourrait s'appliquer tout de suite, parce que c'est une autre source d'économie d'énergie très importante. On s'en est aperçu sur l'île, qui est la dépense en eau chaude. Et l'eau chaude, il y a une solution qui est facile, qui n'est pas compliquée techniquement, qui sont les panneaux pas voltaïques, les panneaux thermiques. Et là, pour l'instant, sur l'île, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui le fait du tout ou il n'y a peut-être qu'une personne.
Ces panneaux thermiques se mettent sur le toit ?
Se mettent sur le toit avec les questions PLU, bien sûr.
C'est pour ça que je vais y venir.
Donc, il faut aussi voir... c'est autorisé maintenant si le versant sud du toit n'est pas visible de la rue, comme tu sais.
Vous connaissez bien le PLU. Jean-Louis.
En fait, ce sont des sujets, tout ça, qui sont assez importants, dont on a besoin de compiler dans le cadre de l'étude qui est en cours de réalisation en ce moment.
Cette étude, elle en est où ?
Eh ben, on en est vraiment au tout début. Hein. Jean-Louis parlait de questionnaires habitants, de questionnaires artisans. Il faut pouvoir rassembler un petit peu toutes ces données-là, de savoir si les artisans, justement, sont en phase et sont prêts à répondre à cette demande-là, en tout cas si elle s'initie. Donc, l'idée, c'est de voir, suite à cette étude-là, quel est le dispositif et vers quoi est-ce qu'on partirait pour 2018 si on veut vraiment partir sur des objectifs ambitieux en matière de rénovation énergétique.
Cette étude sera finalisée quand ?
Alors, le calendrier, donc là, on a tout juste commencé. On devrait avoir les premières restitutions pour le début de l'année 2018, avec des conclusions sur le dispositif qui sera à mettre en place par la suite autour du mois de mars. Donc, on serait au début du printemps. Et on espère que le dispositif qui sera choisi, probablement plateforme de rénovation et opération programmée d'amélioration de l'habitat. Mais après ça peut se concrétiser de différentes manières. Donc ça, on le saura probablement pour le printemps de l'année prochaine.
Qu'est-ce que l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat ?
Alors l'OPA, hein, ce sont des opérations de l'habitat qui cherchent justement, qui travaillent avec des opérateurs de l'ANA, donc comme Solia, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui aident les particuliers à revenus modestes pour faire des travaux d'amélioration sur des enjeux sociaux. Si on a des logements qui sont considérés comme indignes ou insalubres, il faut faire quelque chose. Et du coup, on sollicite des aides de l'État, de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, pardon, pour effectuer ce type de travaux.
Jean-Louis.
Si je ne me trompe pas, Samuel, je crois que ça s'adresse aussi aux logements dont les, dont les habitants sont locataires.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est un point important, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'habitats insalubres, aux limites ici, qui ne sont pas habités par le propriétaire.
Voilà. Alors, il faut que ce soit évidemment en accord avec le bailleur, mais effectivement, ça concerne. C'est aussi ça ce qui séduit dans les opérations ANA, c'est qu'on touche le public qui est le plus en attente de ce type de travaux ou de demandes-là, et c'est toujours un petit peu compliqué de solliciter ces aides-là. Et on ne peut que les solliciter que par le biais de ce type d'opération. Donc, quand on déclenche ce type d'opération, il y a une...
Mais comment déclencher ce type d'opération?
Eh ben voilà, il faut passer par une étude, il faut passer par une convention avec le département, il faut que la municipalité se mette en ordre de marche, etc. Qu'il y ait des crédits
la
qui se débloquent.
La municipalité est en ordre de marche?
Ah bah ben oui, puisqu'elle a lancé l'étude. Donc c'est bien que la municipalité est partante pour lancer ce type d'opération. Il faut débloquer des crédits aussi pour pouvoir le faire conjointement avec le département. Et ce sont des opérations qui s'étalent au minimum sur 3 ans, reconductible. Mmh. La plupart du temps, la première année, ça a du mal à démarrer, le temps que ça se sache, qu'il y ait du bouche à oreille, qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et après, tagadam, tagadam, ça part assez rapidement et souvent, c'est très reconduit pour une deuxième tranche, voire troisième tranche.
Première opération, à partir de quelle date, Samuel?
Eh ben,
Est-ce que vous le savez?
On ne le sait pas encore, puisqu'il faut attendre la réalisation de l'étude pour pouvoir connaître le dispositif dans lequel la municipalité
veut rentrer
ou souhaitera s'engager. Mm-hmm. Ça passera évidemment par délibération conseil municipal, etc. Donc, on ne le saura pas avant le printemps de l'année prochaine.
Printemps 2018.
Exactement.
Jean-Louis.
Je voulais ajouter là-dessus que ça demandait un effort particulier à la commune, parce que ces plateformes de rénovation énergétique n'ont jamais été faites pour une simple commune. C'est fait pour des communautés de communes. Et donc, comme d'habitude, on a ce problème de ne pas faire partie d'une communauté commune.
On est seul.
Et ça justifie un peu toutes ces études, puisqu'il faut convaincre quand même la région, les autres, de passer
la
à la
région,
caisse.
La région, le département.
De passer à la caisse avant.
Voir l'État, non.
Et jusque-là, ils ont fait des plateformes pour des communautés de communes avec 20 000 habitants, par exemple. Mm. Et donc, la question pour eux, c'est de savoir, est-ce que ça vaut la peine pour 5 000?
Ça même.
Oui, en fait, pour la commune aussi, ce qui a été notamment déclencheur d'un point de vue financier, puisque ça engage aussi la collectivité dans ces financements-là, c'est le fait d'avoir orienté des crédits sur les fonds Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte, dont la commune a été désignée lauréat, sur ce type d'opération. Mmh. Donc, il y a une partie des crédits qu'on appelle TEPCV qui seront orientés pour mettre en place cette opération-là.
TEPCV.
Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte, vu que t'aimes bien les acronymes, Roland.
Le samedi 21 octobre, au matin, dans le hall de Super U, que va-t-il se passer? C'est vraiment de l'information vers les particuliers, si j'ai bien compris.
Exact, oui, on aura une simple table, de la documentation. Je suppose Samuel en a assez, des brochures.
Des brochures de qui, de quoi?
La plupart des brochures sont préparées par l'ADEME, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. En fait, l'idée, ce sera d'interpeller un petit peu les particuliers pour aller au-devant des problématiques des particuliers sur l'habitat et sur la rénovation du bâtiment. On l'a vu l'année dernière au premier forum de l'habitat. On a eu un petit peu de participation, mais c'était un peu faible. Mm-hmm. Et donc là, l'idée, c'était de prendre à contre-courant un petit peu le format et d'aller directement là où sont les gens pour pouvoir les tenir informés.
Pour pouvoir en discuter.
Voilà, pour leur donner des informations.
Et connaître les besoins.
Leur expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on le fait, que ça les concerne, etc. Ça concerne absolument tout le monde. Mm-hmm. Il ne suffit pas d'avoir des crédits modestes, hein, ça concerne tout le monde, puisque c'est aussi l'enjeu de la plateforme, ça concerne tous les types de publics.
Jean-Louis.
Oui, une des choses importantes qu'on va essayer de faire, c'est de distribuer le maximum de questionnaires, voir si on peut avoir les gens qui les remplissent tout de suite et nous les rendent, ça serait idéal. Mais en tout cas, de se servir de ce questionnaire, un, pour contacter les gens, et deux, pour avoir de la matière première pour l'étude.
À ce jour, les aides à la rénovation et à l'amélioration de l'habitat sont assez nombreuses. Mais c'est pas simple de tout de même s'y retrouver.
Elles sont nombreuses et c'est un petit peu...
Et de trouver aussi le bon interlocuteur.
Ouais, c'est le labyrinthe pour les aides. Enfin, moi qui suis un petit peu dans le domaine, je les connais pas toutes. Ça change tous les ans, c'est un vrai casse-tête. Ça fait partie des questions récurrentes que doit gérer Pierre, de l'association Élise.
Pierre Gorsic, oui.
Voilà, avec l'espace Info-Énergie. Donc c'est vraiment un métier. Donc, une des meilleures manières d'accompagner les particuliers dans ce dédale d'aide et dont on n'y comprend plus rien,
c'est ce guichet unique.
Voilà, c'est de se faire accompagner et c'est d'avoir un guichet unique où, depuis le projet jusqu'à la réalisation des travaux, donc les intermédiaires, c'est aller voir les artisans, les banques, etc., discuter des devis, donc il y a beaucoup de choses à faire, ressortir
prêts,
les paperasses, etc., donc c'est très compliqué. Mm-hmm. Et du coup, on a une personne qui prend ce dossier-là et qui se chargerait de travailler sur ce dossier de rénovation énergétique avec le particulier qui a le projet, pour que tout le boulot soit fait sans que ce soit un véritable casse-tête. C'est ça l'enjeu.
Le guichet unique, pour l'instant, pas de date d'ouverture de ce guichet unique. Il faut vraiment attendre la fin de l'étude, j'en passe des meilleurs.
Bah exactement, ouais, t'as tout compris, c'est ça. Il faut attendre un peu.
Samuel, merci beaucoup de toutes tes informations.
Bah, au plaisir.
Merci Jean-Louis, à très bientôt.
Oui, c'est Jean-Louis ici. Merci Roland, à bientôt.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, nouveau rendez-vous avec le collectif agricole. Ils nous parleront de ferme ouverte qui aura lieu sur Lille-Dieu le dimanche 29 octobre prochain à la ferme d'Emilie. On en parle plus en détail demain dans Je vous dis pas. Bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.